Vous écoutez
RMC. RMC.
Qui a eu l'idée?
Les grandes gueules du sport.
Il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis. Hein,
9h midi.
Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo. Hein,
Jean-Christophe Drouet.
Tu es très grand aujourd'hui.
Merci beaucoup Marc Madiot, que l'on embrasse évidemment sur les routes du Tour. Bonjour à tous les grandes gueules du sport, c'est votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. L'émission de sport que tu peux écouter en voiture, en pyjama, en podcast ou les trois en même temps. Si vous êtes sur la route des vacances, faites attention à vous évidemment, faites attention sur la route. Et merci de nous écouter toujours plus nombreux. Au sommaire des grandes gueules du sport dans quelques instants, la une des GG, Wout Van Aert est le nouveau maillot jaune du Tour de France pour la première fois de sa carrière. Le coureur belge, un palmarès long comme le bras, est-il pour autant une star? À 10h, la punchline des GG, signé Tony Parker après le départ du jeune prodige de l'ASVEL, Victor Wembanyama, pour le club de Boulogne-le-Valois. L'ASVEL continuait pourtant de le bichonner avant son grand départ pour la NBA, prestigieuse NBA dans un an. Peut-on parler de trahison, oui ou non? À 11h, la seconde des GG autour du nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il s'appelle Igor Tudor. Nous allons vous présenter l'ancien international croate et nous poser cette question. L'OM est-il encore une fois condamné à faire de la figuration en Ligue des Champions? C'est parti pour les grandes gueules du sport.
Bon, ce qui est important dans une équipe, c'est justement l'équipe.
Et l'équipe des grandes gueules du sport ce matin, une grande gueule qui, comme Alizé Cornet, est capable de fulgurance, mais n'est jamais sûr de revenir avec nous en deuxième semaine. Simon Dutin, salut Simon.
Elle est bonne.
Salut JC, venant d'un fragile comme toi, ça me fait bien rigoler. Mais bon. Oui, mais alors là, petit big up à Alizé Cornet, à qui on a mis un petit plomb hier pour ses déclarations. Elle dit parfois des bêtises, mais quand elle tape les meilleurs mondiales, on se régale.
La
bravo,
numéro Alizé. 1 mondiale en plus.
Tout à fait.
Ziantec.
Elle avait fait le coup avec Serena, je crois, il y a quelques années. En plus, c'est dommage que ça manque un petit peu de constance quand même.
Trois Françaises en huitième de finale de Wimbledon. C'est une première depuis 17 ans. Bravo. Nos Françaises, on les a déjà assez crépies dans cette émission pour savoir dire bravo enfin, quand il faut dire bravo. Une grande gueule qui, comme Alizé Cornet, a fait polémique cette semaine. Marie Martineau, salut Marie.
Salut. Je pense qu'elle a pris encore plus de kilos de caca sur la tête que moi, la pauvre. Je crois que c'est terrible. Hein.
Oh, il y a match.
Ouais, tu crois? Alors moi j'ai coupé, au moins j'ai plus lu, tu vois. Et j'embrasse tous les gens qui m'ont lancé des kilos de caca dessus. Beaucoup d'amour.
Voilà, exactement. Et Nicolas Batum était avec nous hier. Vous pouvez réécouter en podcast, évidemment, et qui est venu s'expliquer sur le choix du site également avec toi, Marie Martino. Et puis une grande gueule qui, comme Alizé Cornet, est plus proche de la fin que du début. À bientôt 50 ans. Olivier Giraud, salut Olivier.
Regarde-le, on dirait qu'il a une peau de bébé.
Je ne te salue pas. Je salue les auditeurs, mais je ne te salue pas.
J'ai pas Christophe Cessu avec moi ce matin, donc je suis obligé de tailler sur l'âge et j'ai la sensation que tu es le plus âgé dans le studio.
Ouais, ça arrive pas souvent, mais ça va arriver de plus en plus souvent, je pense.
Oui, c'est possible. C'est ça, d'avoir des hautes fonctions aussi, notre ami le directeur aussi de l'UNSS. Merci d'être avec nous ce matin, les GG. Merci à vous, les auditeurs. Je vous propose de démarrer avec quelque chose que vous aimez. C'était sur RMC et le Danemark, hier, était une nouvelle fois en folie.
Précédemment dans l'intégral tour sur RMC.
Vive la France, vive le Tour de France.
Oh là là là, oh là cette là fois c'est beaucoup
gamelle,
plus solide.
Grosse gamelle.
Ouais, grosse gamelle dans le peloton. Quasiment tout le peloton est arrêté.
Ouh là 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 là.
Pogacar, c'est le dernier à passer. Pogacar, hein, il a été poussé, il n'est pas tombé, mais c'est le dernier à passer.
La flamme rouge.
Oh, tu donnes la flamme rouge à 1,2 km, tu as triché.
Pas du tout, regarde, elle est là, la flamme rouge.
Oh là là, encore un écart du côté d'un coureur de Wanty, groupe Gobert, ça a failli cartonner. C'est parti pour l'effort de Mats Pedersen avec Wout Van Aert dans sa roue. Est-ce qu'il va tenir Mats Pedersen, le champion du monde 2019, devant ses fans danois? Wout van Aert qui va être le plus rapide à mon avis, ça va être Wout van Aert pour la victoire. Wout van Aert, non, c'est Fabio Jakobsen qui s'impose sur la gauche de la route.
C'est quelque chose qui restera en moi toute ma vie. Je n'ai pas de mots et je vais vraiment savourer cette victoire. Je suis heureux de toujours aimer rouler, m'entraîner et bien sûr de gagner.
For sure, still enjoy winning.
Il s'impose Jakobsen ici à Nyborg.
La deuxième étape du Tour de France aura donc vu le grand retour de Fabio Jakobsen 2 ans après sa dramatique chute lors du Tour de Pologne. Mais cette deuxième étape, vous l'avez aussi entendu, aura consacré un coureur très redouté du peloton, Wout Van Aert, qui portera ce matin pour la première fois de sa carrière le maillot jaune. La musique qui fout les jetons est cette question. Wout Van Aert, on le connaît, il est très doué, il a gagné beaucoup de choses. Est-ce pour autant une star? Oui ou non, Simon Dutin?
Oui, bien sûr.
Marie Martineau?
Absolument pas.
Olivier Giraud.
Pas encore.
Avant de débattre, on va retrouver l'homme à la moto, Arnaud Souk. Salut Arnaud.
Salut les amis, comment
Salut
ça va
Arnaud.
Hello.
Très bien, l'homme à la moto sur le Tour de France, évidemment. Édith Piaf avait tout vu avant tout le monde. Arnaud, à 27 ans, Wout Van Aert a déjà un palmarès incroyable.
Oui, alors le récit, pour revenir un petit peu sur son histoire, est peut-être un petit peu moins vendeur que celui d'un Mathieu Van Der Poel, biberonné dès le berceau aux exploits d'une dynastie familiale composée rien que ça d'un papa champion nommé Adrie et surtout d'un grand-père nommé Raymond Poulidor. Il a peut-être moins de saveur pour le peuple français que celui d'un Julien Alaphilippe devenu au gré d'exploits sur le Tour le chouchou depuis plusieurs années maintenant du public tricolore, mais il a quand même tous les contours d'une success story pardon qui mérite d'être soulignée. Wout Van Aert monté un petit peu par hasard sur un VTT offert par ses parents quand il avait 8 ans. Quelques jours plus tard, nous sommes en 2002, le gamin s'aligne sur une compétition renommée chez les jeunes et termine deuxième. Il est petit, il est complexé par sa taille, mais il est méticuleux et surtout très persévérant. Il continue le vélo, notamment dans les chemins boueux du cyclo-cross dans lesquels il va s'éclater jusqu'en 2018, devenant au passage double champion du monde de la discipline. Il décide alors de se consacrer entièrement à la route pour y gagner tout ou presque. Vice-champion du monde, vice-champion olympique, deuxième de Paris-Roubaix, mais surtout vainqueur de l'Amstel, de Gent-Wevelgem, des Strade Bianche, de Milan-San Remo, de 6 étapes sur le Tour de France, au sprint, au chrono ou en montagne, c'est dire la polyvalence. Hier, sa soif de victoire n'a pas été étanchée puisqu'il a terminé pour la deuxième fois en deux jours sur ce Tour 2022 en deuxième position. Mais cela lui a permis, donc tu l'as dit Jean-Christophe, de s'emparer pour la première fois de sa carrière du maillot jaune de leader, un joli trophée supplémentaire dans sa collection déjà bien remplie.
Tu restes avec nous, Arnaud Souk. Wout Van Aert est-il une star? C'est notre question ce matin dans les grandes gueules du sport. Et évidemment, nous vous parlerons de cette troisième étape du Tour de France. Encore une fois, et pour le dernier jour au Danemark avec Arnaud Souk. J'ai dit oui, j'ai dit non. Marie, tu commences, pourquoi non?
Mais tu vois, tu as failli dire Van Der Poel à la place de Wout Van Aert.
C'est vrai.
Et c'est un lapsus assez révélateur. Sur Insta, c'est 649 000 followers. Et puis, Evenepoel, c'est 519 000 followers. Et puis, Alaphilippe est là au milieu aussi. Le test le plus simple, c'est le test des Champs-Élysées, tu sais. Tu le mets en haut, tu le fais descendre et on voit s'il se fait arrêter. Et je mets ma main à couper que malheureusement, enfin, ou heureusement, je ne sais pas si c'est vraiment dramatique de ne pas être une star, mais Wout Van Aert ne se fera pas arrêter parce que personne ne le connaît, parce que sorti du microcosme du vélo, et attention, n'enlevons pas à ce jeune homme ce qu'il est, hein, Arnaud l'a bien rappelé, il a un très beau palmarès, rien à dire là-dessus.
C'est parce qu'à Paris, les gens avec un casque, des cuisseurs et des lunettes, on appelle ça des bobos, tu vois. Et qu'il y en a partout, donc évidemment, personne ne va le reconnaître.
C'est comme ça, c'est pas une resta. Il manque encore d'épaisseur, peut-être, il manque encore de plus de saison, de prise de parole. On a besoin de l'entendre, de comprendre le personnage, de le connaître. On ne le connaît pas. Enfin, est-ce que l'un de vous autour de la table peut me dire une punchline, quelque chose qu'il aurait dit, qu'il le mettrait un petit peu en exergue? Je crois pas. Et encore une fois, je le redis, ça n'enlève rien à ses talents extraordinaires de cycliste. Il va peut-être devenir une star, il a tout pour, mais ce n'est pas Froome, ce n'est pas Indurain.
Et ça va être l'avis d'Olivier Giraud. Mais tout d'abord, c'était tranché, c'était oui, c'est une star. Pourquoi Simon?
Rien que le fait de poser la question dans une émission si prestigieuse que les grandes gueules du sport, c'est bien la preuve que Wout Van Aert est une star. Tout le monde connaît son nom, même les gens un peu au fait de la chose cycliste. On parle de lui dès qu'il s'aligne au départ d'une course. Il réussit à exister médiatiquement alors qu'il est dans la Dream Team, la meilleure équipe actuelle qui compte, on le rappelle, deux favoris dans cette édition, Vingegaard et Roglic. Et pourtant, il anime quasiment toutes les étapes. Il attaque tout le temps, c'est dans sa nature. Donc, pour exister médiatiquement, il faut faire parler de soi, faut courir devant. Je suis pas sûr d'ailleurs que, au passage, ça arrange son équipe de la Jumbo, parce que effectivement, ils sont obligés de composer avec ses envies de offensives et tout, alors que eux, ils ont une course de 3 semaines à gérer. Il gagne sur tous les terrains. Il peut gagner des chronos, il peut gagner des étapes qu'on dit de baroudeur, de puncher, des classiques. Il a déjà gagné Milan-San Remo, le Strade Bianche. Il peut gagner en montagne. Il avait gagné au Vendée tout l'an dernier. Le petit bémol, c'est qu'effectivement a priori, il gagne dans des échappées. Il a encore largué aucun des grandes terreurs du peloton à la régulière à l'avant d'une course. Le révélateur, c'est les courses à étapes. Il aurait peut-être pu gagner le Dauphiné cette année. Voilà, je pense que il est effectivement plus taillé pour les classiques. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est ça qui l'intéresse le plus, hein, en bon flamand qu'il est. Il n'a encore pas réussi à gagner les Flandriennes, mais ouais, c'est une star, évidemment. Okay. Il a a une grande gueule. On l'écoute, on l'observe, on le craint. Il est capable de faire péter la course sur n'importe quel terrain. Ouais, c'est une star du cyclisme.
Tu parlais des classiques. C'est peut-être là son problème pour être une star du grand public. Ok. En devenir, pourquoi pas, Olivier Giraud?
Pourquoi pas? Parce que, bah, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le cyclisme, hein, parce que il y a quelques années, tous ces coureurs, Van der Poel, Van Aert, eh ben, on se posait la question s'il allait avoir enfin des stars dans le cyclisme, ce qui manque un petit peu, tu sais, des fois dans le tennis, tu vois. Et finalement, il y a toute une génération qui est en train d'exploser et Van Aert arrive à ce moment-là. Il arrive à ce moment-là, t'as dit, il allait peut-être gagner le Dauphiné, il allait peut-être gagner la première étape, il allait peut-être gagner la seconde étape. Je pense que c'est le coureur le plus complet, hein, de tous. Il est toujours présent, mais jamais premier. Jamais premier et aujourd'hui à un moment pour briller faut gagner.
Enfin, il fait deux et deux, donc il prend le maillot jaune.
Non, mais je suis d'accord avec toi.
Il gagne trois étapes en dernier. Je t'ai pas dit sur le tour.
Ce que je n'ai pas dit, j'ai pas dit que ce n'était pas un grand coureur. C'est un très très grand coureur. Mais aujourd'hui pour être une star, hein, c'était la question. Il en faut plus. Et il va falloir des éclats. Il va falloir briller. Il va falloir briller. T'as vu hier on avait ce débat sur Pogacar qui et aujourd'hui est le mec que tout le monde regarde. Moment, si tu veux devenir une star, eh ben il faudra battre ces mecs-là.
Est-ce que Pogacar c'est une star alors à ce moment-là? Parce qu'à ce moment-là, le cyclisme reste une niche parmi les sports professionnels. Est-ce que Pogacar est une star en dehors des amoureux de cyclisme?
Là actuellement, ils sont en train de se battre pour savoir qui sera la grande star du cyclisme. Ils sont plusieurs à pouvoir relever ce challenge et peut-être le devenir. Et Van Aert, pour l'instant, je suis désolé, il est outsider, il est challenger.
Alors c'est intéressant ce que tu dis sur la deuxième place et les deuxièmes places de Wout Van Aert, parce qu'il en est totalement conscient. Écoutez sa réaction hier, justement, au micro de nos envoyés spéciaux. Wout Van Aert, oui, il a le maillot jaune, mais il n'a pas gagné, il a terminé deuxième.
C'est un peu une déception d'arriver deuxième de nouveau. C'est un peu mon place, malheureusement, mais à la fin, aussi les coureurs qui font beaucoup de fois deuxième sont des grands coureurs, non? Je suis très content avec la deuxième place d'aujourd'hui parce que je prends ce maillot. Et c'est le Tour de France, c'est le plus grand course de l'année. Donc, c'est sûr, je vais défendre aussi long que c'est possible.
Arnaud Souk, en direct du Danemark, tu as l'habitude de le côtoyer, de l'interviewer, Wout Van Aert. On réagit comment à ses côtés? Est-ce que c'est un homme que l'on repère, que l'on voit, que l'on a envie d'applaudir? Est-il charismatique? Tu le définirais comment?
Alors déjà, je suis surpris d'entendre qu'il sourit dans l'interview, parce que c'est vrai que c'est pas le gars le plus souriant. Après, non, mais c'est vrai que c'est pas un gars qui est habitué à sourire, mais par contre c'est un gars qui se repère. Oui, c'est un gars qui a un charisme et une carrure absolument incroyable. Je pense que la question c'est pas de savoir si c'est une star ou si c'est pas une star. Je pense que plutôt la question, enfin selon moi, c'est de savoir où est-ce qu'il est une star. Et en Belgique, c'est une star absolument incontestée. C'est la star du cyclisme belge. Wout Van Aert, c'est un gars pour qui voilà, on est prêt à se mettre à genoux au sol. Par exemple, on avait reproché, il faut dire que voilà, ce sont des passionnariats, hein, du cyclisme en Belgique. Il n'y a pas du tout la même façon d'analyser ce sport que chez nous. Remco Evenepoel, pardon, son compatriote, avait été énormément critiqué, il avait été vilipendé, il avait été vraiment brocardé après les Jeux Olympiques l'an passé à Tokyo, notamment parce qu'il n'avait pas eu la possibilité physique de se mettre au service de Wout Van Aert pendant la course olympique, et ça avait justement coûté la médaille d'or olympique à Wout Van Aert. Et ça, donc le public belge en avait énormément voulu à Remco Evenepoel et avait soutenu énormément Wout Van Aert, parce que c'est un coureur qui est adoré, c'est un coureur qui est adulé en Belgique véritablement. Le public belge, il faut juste le voir à Louvain l'an passé aussi au championnat du monde, la déception qui a été celle du public belge quand Wout Van Aert n'a pas été en mesure de battre Julien Alaphilippe aux Mondiaux. C'est vraiment une star en Belgique, ça faut bien le comprendre quand même.
Oui, alors ça reste une star en Belgique. Est-ce que tu penses que finalement ce qui le sert le plus, c'est pas sa rivalité avec Mathieu Van Der Poel, ou même avec Yann Alaphilippe, enfin, ce truc-là on le retiendra pour l'instant, mais pour l'instant pas lui tout seul, quoi.
Après, c'est difficile de répondre à ta question. Ce qui est sûr, c'est que Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert, je vous ai parlé tout à l'heure de cette fameuse course là que Wout Van Aert a disputée quand il avait 8 ans dans les chemins de cyclocross. Il venait de se faire offrir un VTT par ses parents. C'est la première fois ce jour-là qu'il a vu Mathieu Van Der Poel. Les deux se connaissent depuis qu'ils ont 8-9 ans. Ils se détestent, mais voilà, il y a une rivalité qui s'est installée tout au fil des années. Ils ont été chacun plusieurs fois champion du monde de cyclocross. Ils se sont disputés ces titres dans les chemins boueux du cyclocross. Et cette rivalité a rejailli jusque dans les courses sur route. D'ailleurs, autour des Flandres, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, c'est Wout Van Aert avait accusé Mathieu Van Der Poel d'avoir tout fait pour l'empêcher de gagner. Donc oui, cette rivalité-là, elle existe. Aujourd'hui, je pense que ça reste, et ça c'est toi qui l'as dit, me semble Marie, une rivalité qui est sur le terrain plus des classiques, finalement, sur le terrain des courses classiques. Et en France, on n'a malheureusement pas la culture des classiques. C'est pour ça que peut-être on n'apprécie pas à sa juste valeur un coureur comme Wout Van Aert aujourd'hui.
Ça, c'est, je suis bien d'accord avec toi, Arnaud. Mais effectivement, des têtes d'affiche, des caractères comme ça, des rivalités comme celle qu'il entretient avec Van Der Poel peuvent contribuer justement à faire émerger justement des dualités de caractères. Les gens choisissent leur favori. Le grand-père de Van Der Poel en est le plus parfait exemple. Hein. Mm-hmm. Poulidor, il a été plus populaire encore que Anquetil. Hein. On disait Poulidor, il est complexé face à Anquetil. Anquetil, il est transcendé face à Poulidor. Et pourtant, c'est celui qui a toujours perdu face à son adversaire, qui est resté la plus grande star, en tout cas le plus aimé des Français. Effectivement, je pense que ce qui joue à la fois pour et contre lui, c'est sa capacité à gagner sur tous les terrains, une espèce d'ultra polyvalence qu'il aura à mon humble avis du mal à gommer, parce que il a quand même un physique de bûcheron. Ça va être compliqué d'avoir un physique de danseur étoile pour aller taquiner les purs grimpeurs sur des courses de 3 semaines. Pardon, Arnaud.
Non, c'est juste, si je puis me permettre, une toute petite parenthèse. En fait, si Wout Van Aert était français aujourd'hui, il serait adulé, mais bien évidemment, plus que Julien Alaphilippe. Évidemment. En fait, c'est juste qu'il est belge et qu'il n'y a rien qui le rattache effectivement à quelque chose de français. Là où Mathieu Van Der Poel, tu as cité Raymond Poulidor. Raymond Poulidor, ben oui, c'était le chouchou du public français. Mathieu Van Der Poel est son petit-fils, donc on en fait aussi un chouchou. Ça va pas plus loin que ça.
Olivier Giraud.
Si Nadal était français aussi, je pense que tout le monde l'adorerait.
Ça serait bien.
Sur l'histoire Poulidor-Anquetil, ça veut dire que moi je voudrais le remettre dans le contexte. Si aujourd'hui il y avait Poulidor-Anquetil, aujourd'hui, dans le monde actuel du média, je pense que Anquetil serait une super star.
Parce qu'on m'a appris à n'aimer que les winners, toi, désormais.
Non, ça n'a rien à voir avec les winners. La différence entre Anquetil et Poulidor, bien sûr, il y a la première et la seconde place, mais ce sont les caractères.
Ouais,
l'autre, c'était une star. Il aimait sortir la nuit, il avait une vie, il sortait avec des mannequins. C'était une époque où on n'appréciait pas trop dans le vélo ce type de caractère. Et c'est pour ça que Poulidor a pu prendre la place, parce qu'il n'était pas apprécié. En tout cas, il n'était pas de son temps, Anquetil. Anquetil serait aujourd'hui, ça serait une superstar. Donc, quand on fait cette comparaison-là entre Anquetil et Poulidor, il faut la remettre dans le contexte aussi.
J'ai l'impression qu'il manque quelque chose à Wout Van Aert, et vous en avez déjà quand même parlé, en tout cas effleuré l'idée. Les classiques, c'est très bien, mais en France, la popularité, c'est le Tour de France. Alors oui, il y a eu des coups d'éclat la saison dernière.
Il a gagné 6 étapes. Il gagne 2 ou 3 fois aussi. Tu vas voir.
Attendez, je refais l'organigramme de cette entreprise. Ok, Drouet, Jean-Christophe, c'est tout en rouge.
Jean-Christophe, écoute-moi.
Là, après, en bas, voilà. Là, il y a Marie Martineau.
Mon but, c'est de remonter l'échelle sociale.
Le local poubelle.
Non, mais la base.
C'est une vanne d'orage. Je finis ma phrase, mon Dieu. Donc, j'avais envie de vous dire que, au niveau du Tour de France, oui, il a déjà remporté des étapes, mais c'est de le voir souvent en jaune, c'est de le voir sur un podium, c'est de le voir écraser quelques courses. Vous voyez,
Mais avant ça, revenons tout au début. Avant ça, il n'est pas le leader de sa propre équipe. Enfin, je veux dire, si c'était vraiment une superstar, est-ce qu'il serait.
T'as vu l'équipe?
Il est quand même obligé de composer avec Roglic.
Il arrive à exister au milieu de
son équipe. Il n'est pas le leader là dans l'absolu. Il n'est pas le leader dans l'absolu du Tour de France, mais parce que c'est pas on va tout de suite mettre un terme à l'idée que Wout Van Aert puisse gagner un Tour de France. Il ne gagnera jamais le Tour de France.
Je suis d'accord avec ça.
Voilà, c'est pas une star.
Oui, mais alors Arnaud, je parle sous ton
mais
contrôle parce que
plus.
Ça a été évoqué
Van Der Poel
hier
dans le
Tour. S'il était dans une autre équipe que la Jumbo, il serait le leader incontesté d'une autre équipe, non?
Bah, faut qu'ils soient d'équipe alors.
Bah, chez Quickstep, par exemple, oui, j'ai pas de doute que, vu que Quickstep ne joue pas le classement général, oui, il serait le leader. Oui, de toute équipe qui ne joue pas le classement général, oui, Wout van Aert serait le leader. En tout cas, sur le Tour de France. Mais Wout van Aert reste quand même le leader sur plein d'autres courses, hein. Il a 24 jours de course cette saison. Je crois qu'il a terminé 10 fois au moins sur le podium. Enfin, faut juste se rendre compte, en fait.
C'est le courant le plus régulier.
Et comme oui, tu disais, le plus complet, l'un des plus complets du peloton. Et ça, on ne le dénigre pas, évidemment.
Non, clairement pas.
Et félicitations à lui. Mais c'est vrai qu'une épopée, par exemple, cette année en jaune, il garde le maillot pendant 5, 6, 7 étapes, peut-être que.
Ça l'aiderait.
Eh bien, ça pourrait l'aider au niveau, non pas de son palmarès, mais de sa
ouais, je ne suis pas sûr que ça arrange la jumbo de devoir défendre le maillot jaune de Van Aert. Mais bon, on va voir comment ça va être intéressant de voir la stratégie.
Non, il l'a dit en creux hier un petit peu que oui, bon, bah voilà, l'équipe va devoir travailler, mais que de toute façon, elle allait travailler pour protéger ses leaders. Donc voilà.
Pas plus, pas moins que les autres. Hein. Là, vu le contexte de cette première semaine, je suis pas sûr que ça les dérange tant que ça de devoir travailler.
L'étape du jour, ça donne quoi ? À quoi on peut s'attendre, mon cher Arnaud ?
Alors, je n'ai pas les données météo exactes parce que le vent est très tournant ici. Mais alors, c'est une étape qui va prendre la direction du sud du Danemark. On va quasiment arriver à la frontière allemande, non loin de Flensburg, qui est une ville de handball. On a 182 km donc entre Veilé et Sonderborg. En fonction de la direction que pourrait prendre le vent dans certains chemins que prendra cette étape, eh bien, on pourrait pourquoi pas avoir quelques petits coups de bordure. Ça reste à voir parce que hier, on en a tellement fait et il ne s'est tellement rien passé finalement qu'on ne prend pas trop de risques. Mais attention, les bordures pourraient pourquoi pas aujourd'hui émailler cette troisième étape
du dimanche. Et je rappelle que ensuite il y aura ce retour en France, ce retour dans le nord de la France. Donc demain, journée de repos, nous serons là en direct pour des grandes gueules du sport spécial de 15h à 18h. On prend la place du Super Moscato Show, on prend la place de l'Intégral Tour avec Simon Dutin, avec Marie Martineau, avec Cyril Guimard, Jérôme Coppel et toute l'équipe. Nous serons des invités évidemment prestigieux. Nous serons en direct de Valers, près de Valenciennes, dans le Nord. Venez nous voir, nombreux dans ce village. C'est juste à côté, ça va vous parler si vous adorez Paris-Roubaix, de la Trouée d'Arambert. Voilà, bien connu des cyclistes.
Et puis, on me glisse dans l'oreillette plateau de fromage à 15h45. Voilà, je ne sais pas ce que cette information.
Dégustation, voilà, de fromage, voilà.
Vous avez la belle ville,
voilà. On va se régaler. Voilà, on sera là à partir de 15h, 18h, l'équipe des grandes gueules du sport. Donc, en délogue dans le nord de la France pour cette journée de repos. Merci beaucoup Arnaud Souk, on te retrouve dès 14h aujourd'hui.
Salut Arnaud.
Sur la route du Tour de France pour l'intégral Tour. A tout de suite pour la messagerie VIP des GG.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h32 de retour sur RMC pour les grandes gueules du sport. Votre émission tous les samedis, dimanches, de 9h à midi. Merci de nous écouter toujours plus nombreux si vous êtes sur la route des vacances. Évidemment, faites très attention à vous. On vous souhaite de très très belles vacances et restez à l'écoute d'RMC. J'ai pas mal de messages ce matin, notamment Fatal Fury via le Direct Studio. Il va falloir nous dire à quel moment vous partez en vacances. Hein, les GG, parce que moi j'ai envie que ça continue. Bah, alors ça tombe très bien, parce que les GG du sport continuent toutes les vacances. Voilà, à un moment donné, je partirai.
Les GG, c'est tout.
Simon partira, vous aussi Marie, Olivier, mais il y aura toujours les GG, toujours le samedi, toujours le dimanche.
Moi je m'accroche.
De 9h à midi, on sera là tout l'été, donc restez bien avec nous. On est là fidèles au poste. Dans une dizaine de minutes, le zapping des GG, on s'en fout, on s'en fout pas. Moi, j'ai un truc qui m'intéresse beaucoup. Hein.
T'as l'air.
C'est le match très chaud entre Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas.
Oh.
Si ça vous intéresse, je vous ferai écouter les deux en conférence de presse après le match qui se sont envoyés des mines, et notamment Tsitsipas qui a perdu et qui n'était pas très content face à l'Australien. Voilà, ça, c'est dans une dizaine de minutes. Mais tout de suite, tous les samedis, tous les dimanches à 9h30, on écoute le répondeur des GG.
Vous avez 3 nouveaux messages. Hier, à 19h29...
Bonjour les GG, un ancien GG, Philippe Saint-André, j'espère que vous allez bien. Juste une petite question, qu'est-ce que vous pensez de la politique de l'OL de faire venir des anciens joueurs qui ont été formés au club ou qui ont déjà joué Corentin Tolisso ou Alexandre Lacazette? Voilà. Pour moi, j'ai toujours, en tant qu'ancien ou vieux manager, toujours essayé de coller à l'ADN et à l'histoire du club. Quand j'étais à Toulon, j'avais fait revenir Pierre Mignoni et Laurent Emmanuelli, et là, au MHR, Geoffrey Doumerou, qui a été formé au club, qui est parti, qui était vice-capitaine sur la fin de saison, et même il a fini capitaine lors des 20 dernières minutes. Moi, j'aime bien ça. Je vais vous laisser philosopher là-dessus. Je vous embrasse.
Merci à notre ex Philippe Saint-André pour ce message. Faire revenir les ex. Il est plutôt pour, hein, Philippe Saint-André. À mon avis, c'est un appel du pied pour revenir très vite dans cette émission. Mais ça, c'est autre chose, évidemment. Mais faire revenir son ex, alors, c'est une force ou c'est une faiblesse? C'est une force pour Philippe Saint-André, mais pour vous, Olivier Giraud?
J'allais dire une bêtise, ça dépend de l'âge de l'ex.
Bah non, c'est pas une bêtise, ok, très bien. Et donc dans le cas de Lyon, c'est une force ou une faiblesse?
C'est une force.
C'est une force, ok. Marie Martineau.
Alors dans la vraie vie, je pense que c'est une grosse faiblesse.
Ok.
Voilà, ne faites pas ça. Et dans le sport, je pense que c'est une force.
C'est plutôt une force. Simon Dutin.
Ben, on précise que dans la vraie vie, c'est pas toujours facile, hein, déjà, même si on décide. C'est pas toujours garanti.
Attendez, attendez. Parce que moi, si vous voulez pas parler de Lyon, j'ai aucun problème avec ça. Mais si vous voulez qu'on parle des ex qui reviennent dans vos vies, j'ai aucun souci. Moi, ça m'intéresse beaucoup plus.
Ou qu'ils reviennent pas. Du coup, c'est pas parce qu'on décide de faire revenir son ex qu'il ou elle revient. Mais effectivement, dans le cas spécifique, pas forcément dans le sport, hein, parce qu'il y a des exemples où ça n'a pas marché, mais dans le cas de Lyon, je pense que c'est une force.
C'est une force pour vous dans le cas de l'Olympique Lyonnais. Olivier Giraud, pourquoi une force?
C'est une force parce que aujourd'hui, il y a certaines valeurs qu'on veut retrouver. Et l'OL en fait partie. Hein. La grande épopée de l'OL, c'est l'OL formateur. On peut même plus compter le nombre de joueurs exceptionnels que l'OL a formé, hein. Celui qui va certainement devenir le meilleur joueur de cette saison du monde, Karim Benzema en est l'exemple, mais il y en a tant d'autres. Et Tolisso en fait partie. Ce sont des tauliers. Par contre, si on doit mettre un bémol, ce sont joueurs de caractère qui vont revenir. Ce sont plus les petits jeunes qui sont partis. Et la place qu'ils veulent prendre, c'est une place de taulier. Lorsqu'ils sont partis, c'est parce qu'ils n'étaient peut-être pas les tauliers de leur équipe. Et là, ça peut poser problème parce que il faut gérer les égos de ceux qui ont tenu la place pendant toutes ces années où ils étaient out ou partis du club. Donc, il faudra gérer les caractères avec des Dembélé et des Toko Ekambi, par exemple.
Ok, gérer les caractères parce qu'évidemment, ils arrivent avec un autre statut, même si c'est vrai que leur statut était forcément... Ils avaient pris du poids dans ce vestiaire, mais tu as raison, ils arrivent maintenant aussi avec beaucoup plus de titres, notamment de champion du monde pour Corentin Tolisso. Une force également pour toi, Marie Martineau.
Oui, comme tu viens de le dire, déjà, tu fais pas revenir n'importe qui, tu fais revenir un champion du monde, vainqueur de la Ligue des Champions, 5 fois champion d'Allemagne. Tu fais revenir quelqu'un qui a quand même pris de la place et démontré ce qu'il était capable de faire, même si je crois que là récemment il était un petit peu blessé. Ça fait surtout 6 mois qu'il est libre pour ne parler que de Tolisso et ben c'est comme avec ton ex quoi. Quand ça fait 6 mois qu'il est libre et qu'ils sont peut-être un peu plus l'envie d'être désiré quoi. En tout cas, je pense qu'il sera bien disposé à venir jouer à Lyon. Et après, peut-être que tu gagnes du temps aussi à faire aussi rejouer des gens qui sont déjà dans cet ADN, qui savent où ils arrivent, qui savent avec qui ils discutent, qui savent comment ils s'intègrent. Tout ça me paraît être assez intelligent dans la position de Lyon actuelle.
Je suis pas sûr de cet angle qu'on a pris là
sur l'ex.
Avec les ex.
Ah, moi je suis persuadé que c'est le bon. En plus quand on file après la métaphore, j'adore. Simon Dutin.
Non, dans le cas de Lyon, je trouve que c'est un super coup parce qu'effectivement il y a quand même ça offre quelques garanties. C'est des mecs qui connaissent la maison, connaissent le fonctionnement, avec un président qui reste quand même très présent dans la vie du club et même la vie sportive, même si effectivement le coach, le staff ont changé depuis leur départ. Ils sont allés chercher quelque chose à l'étranger, qu'ils ont retrouvé avec des fortunes diverses. Je pense que la Cazette, il s'attendait à un peu plus de réussite du côté d'Arsenal. Tolisso, il a quand même changé de dimension au Bayern. Hein, il n'avait pas gagné un seul trophée avant de partir à Munich. Il est rentré champion du monde, vainqueur de la Ligue des Champions, champion du monde des clubs, je ne sais combien de fois champion de Bundesliga, il a joué avec parmi les meilleurs joueurs de la planète. C'est quand même un sacré coup pour l'Olympique Lyonnais. Ça doit avoir un prix. Hein. Il a dû falloir leur mettre un beau salaire sous le nez. Le timing est important parce qu'ils étaient libres et je pense que Lyon a su se montrer convaincant. C'est la force. Ça montre quand même la force de l'institution Lyon. Hein. Ça fera plaisir au président Aulas, mais c'est pas donné à tout le monde quand même. Hein. Le nombre de joueurs dans les années passées qu'on a entendu dire ah je rentrerai bien en France, mais vous comprenez le salaire, c'est devenu impossible au niveau salarial. Et puis bon, moi je veux. On rappelle que Lyon dispute pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, quoi. Mmh. Quand même, c'est parfois un argument qui peut contrebalancer le manque à gagner financier. Donc moi j'ai été ahuri. Alors Lacazette un peu moins surprise, ils ont pas le même âge, mais ahuri que Lyon réussisse ces deux coups. Je trouve que c'est un recrutement absolument formidable pour l'Olympique Lyonnais.
On rappelle que l'Olympique Lyonnais a vendu ces deux joueurs pour plus de 100 millions d'euros et qu'il les récupère gratuitement. Quand on dit gratuitement, évidemment, il faudra payer le salaire, mais au niveau de la transaction, donc c'est peut-être aussi un coup de maître. Olivier Giraud.
Je vais remettre un bémol encore. Il y a deux clubs et on parle de ces deux clubs, Arsenal et le Bayern de Munich. Ce sont deux clubs, bizarrement, lorsqu'ils laissent partir leurs joueurs, c'est souvent qu'il y a un problème. Soit qu'ils les considèrent comme faisant plus partie de l'effectif, soit pour des problèmes de relationnel à l'intérieur de leur collectif, soit parce qu'ils sont cramés. Le dernier que le Bayern a laissé partir, c'est Boateng. On a vu ce que ça a donné.
Là où tu as raison, Olivier, c'est qu'effectivement, le Bayern se débrouille pour avoir toujours un contrat qui les lie aux joueurs sur lesquels il compte encore. Il y a qu'à voir avec Lewandowski, ils ne veulent pas le laisser partir au Barça. Mais bon, tu as la jurisprudence Toni Kroos. On considérait qu'au Bayern, que Toni Kroos n'avait pas ce qu'il fallait pour devenir un joueur de classe mondiale.
Il est parti où, Toni Kroos?
Ouais, au Real, 5 Ligues des Champions plus tard. On n'aime plus trop évoquer le cas Toni Kroos au Bayern.
Oui, mais c'est ça. Ça veut dire que là, c'est le Real qui va chercher Toni Kroos. C'est pas pareil, là c'est une lutte entre
deux gros clubs. Oui, mais le Bayern ne vend pas les joueurs sur lesquels il compte encore.
Deux gros clubs, quand tu passes de...
Sans
dénigrer l'OL, parce que on parle de clubs qui jouent la Ligue des Champions. Quand t'as un club qui joue la Ligue des Champions, que ça soit Arsenal quand il joue la Ligue des Champions ou le Bayern, laisse partir un joueur et sans dénigrer l'OL à l'OL. C'est que en général, là, il y a pas de concurrence. C'est pas un club qui vient chercher ton joueur.
Ah non, mais sans parler de concurrence, ils se débrouillent. Ils laissent partir les joueurs dont ils n'ont pas renouvelé le contrat. Et dans le cas de Tolisso, je pense que c'est intimement lié à la fréquence et à l'importance de ses blessures. Il a eu deux graves blessures quand même qui l'ont tenu éloigné des terrains. Mais lorsqu'il a été en forme, il a toujours été très performant.
Donc ça reste un sacré challenge pour ces deux joueurs retournés chez eux. Ce que va attendre le public lyonnais et les supporters lyonnais, c'est il faut pas rester dans cette image de ces deux joueurs qui sont partis. Quel joueur ils vont récupérer, parce qu'ils vont récupérer assurément des joueurs de caractère avec de l'expérience, mais tu sais, le caractère et l'expérience, ça sert pas à grand chose si tu n'es pas performant, et que ça peut faire crêpe renversée, tu sais, le beau retour, et on va reparler des ex, le beau retour des ex, et que tu penses que ça va être bien, et puis finalement c'est pire qu'avant. Donc à voir. Par contre, si la mayonnaise prend, honnêtement, pour l'OL, ça peut faire une publicité incroyable, à la fois sportivement mais à la fois en termes de place dans l'horizon de la Ligue 1.
Ouais, là, ça donne de l'épaisseur à l'écusson de l'Olympique Lyonnais, quoi. Un club où des internationaux peuvent être tentés de revenir. Il a 27 ans, Tolisso, hein. Il est en fin de carrière.
On partirait presque du postulat qu'il n'y a que Lyon qui a voulu absolument récupérer Tolisso. Je crois que lui aussi avait tout intérêt à revenir sur Lyon. Il l'a dit très clairement en disant, Didier Deschamps a ouvert la porte en disant, c'est pas forcément parce que les athlètes joueront en Champions League que je vais aller recruter pour être en équipe de France.
Il veut jouer la Coupe du Monde.
Et il a clairement annoncé la couleur en disant que, en jouant à Lyon, il se donnait des chances d'être recruté par Deschamps. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pour dire que le rapport de force n'est pas forcément que dans le sens recrutement de la part du club.
En tout cas, pour faire ce débat, et ça nous fait vraiment plaisir, on a eu cette tranche de vie, cette expérience de vie d'Olivier Giraud et sa fameuse crêpe renversée avec une ex qui revient.
Moi, j'ai cherché une position et tout, je n'ai pas trouvé.
Et ça a changé beaucoup de choses, évidemment, et c'est même devenu pire qu'avant. C'est dire si c'était compliqué. 9h42, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Avec nos GG, le zapping des GG, on s'en fout pas. J'ai le maillot du Paris Saint-Germain qui divise les supporters. Voilà, vous allez me dire si ça vous intéresse ou non. Et puis sinon, j'ai quand même Nick Kyrgios qui a régalé hier à Wimbledon et Stefano Tsitsipas qui avait très envie de lui faire très très mal. Les deux étaient en conférence de presse et ça a chauffé. Ça vous intéresse, on les écoutera. À tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h45 de retour dans les GG, c'est votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi, toujours avec Marie Martineau, Olivier Giraud, Simon Dutin. Dans une dizaine de minutes, nous allons ouvrir un chapitre d'un jeune prodige. On va vous raconter l'histoire d'une pépite française de basket qui est promis un avenir doré. Il est assis sur des millions de dollars. Il va être en NBA la saison prochaine, enfin dans deux saisons plutôt. Vous le comprenez. Mais la saison prochaine, il a décidé de jouer avec Boulogne-Levallois et non plus avec son équipe de l'ASVEL. Peut-on parler trahison? Ce sera notre débat. Nous parlerons également de Wimbledon, aussi du 15 de France dans la prochaine heure. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC,
Le zapping des grandes gueules du sport.
Alors, plusieurs informations à vous donner. L'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner. Le match très chaud entre Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas. On s'en fout, on s'en fout pas. Je vous ai fait un teasing de malade. J'espère que je vous ai appâté quand même. Simon Dutin.
J'ai adoré, mais je m'en fous. Je laisse la parole.
Non.
Oui, mais c'était super, mais bon, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai adoré, voilà, bravo, bravo messieurs, quoi.
Peut-on parler de trahison? C'est la question qu'on se posera à partir de 10h, mais je réponds tout de suite, oui, on peut parler de trahison. Marie Martineau.
Comme tu as dit que tu nous raconterais ce qui s'est dit en conférence, moi j'ai vu le match, mais j'ai pas suivi, donc je veux la suite carrément.
Ok, tu veux la suite de l'épisode, oui. Parfait.
Oh, non, non, moi je suis.
Ok, Nick Kyrgios s'est donc qualifié pour les 8e de finale de Wimbledon hier, en venant à bout de Stefanos Tsitsipas en 4-7, un match électrique, ponctué d'embrouilles, notamment Stefanos Tsitsipas, qui, très énervé par l'Australien, a envoyé la balle dans le public. Une poignée de main que le réalisateur a manqué. C'est ballot,
grave,
quand même.
On
c'est
était même, dingue, on attendait
même,
tout ça.
C'est quand même le truc qu'on veut voir du match. Et lui, eh bien, il zappe, donc j'imagine ouais. qu'il a dû passer une mauvaise soirée. C'était peut-être fait exprès parce que c'est un tournoi de gentleman.
Là, on n'a pas vu le gentleman à grimace.
Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, on la voit au ralenti et tout ça. Ça a été très très froid entre les deux joueurs.
Kyrgios est un gentleman, bien sûr. Tournoi de toute façon.
Tsitsipas prend vite la mouche quand même. On va écouter les deux. Donc en conférence de presse, on commence avec le Grec et ensuite c'est l'Australien.
It's constant bullying. C'est de l'intimidation constante. Il intimide ses adversaires. Il était probablement comme ça à l'école déjà, et je n'aime pas ces gens-là. Il y a un côté diabolique en lui. Il martyrise ses adversaires, et moi, quand les autres ne me respectent pas, c'est absolument normal de faire quelque chose contre ça.
Je me sens très bien. Le cirque venait de lui aujourd'hui. Je me sens bien physiquement, je me sens prêt à rejouer demain. Il a un sérieux problème. Je ne suis pas certain de pouvoir intimider quelqu'un au troisième tour de Wimbledon. Je jouais simplement au tennis. Peut-être qu'il devrait d'abord trouver comment me battre une ou deux fois avant de s'occuper d'autre chose.
Et voilà, échange savoureux, donc en conférence de presse. Ton regard, Olivier?
J'adore. Tu sais, à un moment... Bon, tant que ça reste parce que c'est cordial, ça, parce qu'il y a pas d'injure. Par contre, il y a maintenant une vraie adversité entre les deux. Et on s'est plaint pendant très longtemps, tu sais, de la platitude du tennis, des caractères. Il commence à en avoir quelques-uns de caractères. Et je pense que ces deux-là vont animer le tennis pendant un bout de temps. On va espérer à chaque grand chelem, à chaque tournoi qu'ils se croisent. Et je peux te dire qu'à chaque fois qu'ils vont se croiser, il va y avoir beaucoup de monde devant les écrans parce que ça va pas s'arrêter comme ça. Je pense que là, on est arrivé au non-retour entre les deux. Et ça me fait penser à un petit McEnroe. Connors, on va se l'aider. Ça va être
en
pas
fait,
mal.
Le grand problème de Nick Kyrgios, c'est que même si c'était un joueur pétri de talent, il ne gagnait pas. Donc il n'allait pas forcément très loin dans les grands chelems. Donc on n'avait pas ce.
Bah, il n'avait pas le temps de parler pendant longtemps. Ouais.
Des derniers tours. Alors que là, s'il va loin, bah, c'est aussi génial pour le tennis. Moi, personnellement, hier, il m'a régalé. Parce que, en fait, t'as l'impression qu'il a un côté je m'en foutiste à te rendre la balle comme ça, limite en se marrant. Et le mec en face pète un câble. Marie.
Oui, c'est vrai. Alors, j'ai adoré. Il y en a vu des vraies actions de matchs incroyables, des trucs, des balles folles. C'était passionnant. Et puis, il se rendait coup pour coup. Après, on a aussi vu des volées en pleine tête. Donc, je sais pas si on était vraiment dans la cordialité. Je sais pas si le gentleman agreement était vraiment respecté. Mais, pour le coup, il y avait la même animosité verbal que sur le jeu, et moi c'est ça qui m'a quand même bien régalé. On peut pas dire le contraire.
Franchement,
quoi.
Ce sport très chic, très bon chic, bon genre.
Ah bah là, il a pris
de voir les deux s'allumer, avec notamment, j'ai en tête ce service à la cuillère de Kyrgios entre les jambes. Franchement, c'était incroyable. Et Nick Kyrgios qui affrontera Rafael Nadal au prochain tour en 8e de finale de Roland. C'est vrai que s'il arrive à le battre, Kyrgios, il peut-être aller viser un grand chelem.
Nadal qui a pété un pont aussi hier, quand même.
Exactement. On vous en parlera pendant la pub. Deuxième information dans le zapping des jeux, je vais vous donner le nouveau maillot du PSG qui divise les supporters. On s'en fout, on s'en fout pas. Simon Dutin.
Je m'en fous pas.
Marie Martineau.
Ça, c'est de la cosmétique et tu t'en fous pas, c'est rigolo. Non, mais je veux rester dans le débat, je m'en fous pas non plus.
Ok.
Je m'en fous pas.
Ok, pardon, il y a une précision, il y a Stephen Brun qui nous écoute, il part en vacances là, on l'embrasse très fort, et il a raison, il me dit que Nadal ce serait en demi, voilà, s'il affrontait Nick Kyrgios, car là il
on s'en fout pas là.
Nakashima, non, mais j'ai dit une saucisse, donc voilà, merci, merci Stephen, tu nous appelles quand tu veux. Bon, le maillot du Paris Saint-Germain, c'est donc un maillot qui a le don de diviser au sein des supporters. Alors là, la tunique avait fuité ces derniers jours pour le maillot à domicile, elle a été officialisée ce mercredi, en parallèle de l'annonce du nouveau sponsor maillot qui sera donc la compagnie aérienne, c'est surprenant, Qatar Airways. Le design en forme de échelle inversée avec une large bande blanche délimitée par deux petites bandes rouges ne plaît pas à tous les supporters, quoique vous verrez, il y en a certains qui sont ravis. On a été laissé traîner notre petit micro près du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain.
C'est pas très beau. Et les couleurs blanc et rouge, ça va pas non plus. Le bleu, y a rien qui va en fait. Vraiment, il est moche.
Il est pas mal. Je l'aime bien. Je trouve qu'il est un peu nostalgique. Il fait penser un peu à un plus vieux maillot du Paris Saint-Germain. Du coup, je le trouve vraiment joli. En général, je préfère quand c'est le rouge au milieu avec le blanc autour. Il est pas mal. Là, on retrouve les trois couleurs qu'on avait perdu cette année. C'est déjà ça de bien. Ouais.
C'est un peu bête qu'ils aient inversé les couleurs, le blanc et le rouge.
Non, perdu l'identité. C'est de plus en plus un gros club. L'important, de toute façon, c'est que ce soit Mbappé qui porte le maillot, quoi. On s'en fout du reste. Hein.
C'est bien résumé. Simon Dutin.
Compliqué le shopping à la radio hein, pour choisir les couleurs d'un maillot. Effectivement, faut le voir. Moi, je m'appuie que sur des critères subjectifs. Je le trouve très raté, hein, ce maillot du PSG, qui est pourtant iconique. Les supporters le rappellent. Il y a quand même des couleurs imposées. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Et Paris n'est pas le seul club comme ça. Pourquoi le PSG ne se tourne pas vers effectivement l'origine de ce maillot, le fameux maillot Echter, revenir à des choses très simples pour voilà. Il ferait un carton en faisant un maillot un petit peu vintage auprès des supporters.
Pas un carton auprès des supporters, mais est-ce que
il ferait un carton auprès des supporters parisiens. Oui. Mais alors là, leur maillot, l'objectif, c'est d'en vendre partout dans le monde. Bien et sûr. Effectivement, il y a très peu de supporters dans les autres pays qui sont effectivement attachés aux racines du maillot PSG. Donc voilà, je comprends pas. Je comprends les supporters parisiens qui n'aiment pas ce maillot. Et en revanche, vraiment, je tire mon chapeau au service marketing du PSG avec le nouveau sponsor Qatar Airways. Il y a quand même du chasseur de haut niveau dans le département marketing. C'est vraiment une belle prise. Hein, franchement, félicitations.
Moi, j'imagine le mec en conférence, tu sais. Bon, alors on a qui, Jean-Luc, t'as qui à me proposer? J'ai Qatar Airways.
Non, sans dire que t'as réussi à les avoir. Ouais, c'est bossé. Hein, putain.
Olivier Giraud.
Écoute, moi je pense que tout simplement, tu peux pas avoir un beau maillot tout le temps. Et que quand tu vends du maillot, tu es obligé de faire un maillot totalement différent si tu veux toucher une nouvelle population et le vendre.
Pour remettre 90 balles dans un nouveau maillot,
mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et que de toute manière, le plus beau maillot, tu sais, c'est lequel? C'est le maillot qui gagne. Donc si ce maillot-là gagne la Ligue des Champions, je peux te dire qu'il va faire un carton. Hein.
Non, mais c'est le supporter qui a raison. Le plus important, c'est que Mbappé et Messi le portent.
Exactement,
évidemment,
c'est le maillot qui gagne. Et pour rappeler, c'est un petit peu un truc qui tourne en rond, hein, le maillot du PSG, sa cosmétique, depuis toujours. Je rappellerai juste un des maillots les plus moches du PSG où il y avait une marque de bière sans alcool dessus, Tourtel. On comprenait même pas que c'était le maillot du PSG. Donc c'est une histoire qui existe depuis toujours. C'est vrai que les derniers étaient vraiment très réussis avec l'arrivée de Jordan et avaient vraiment très très bien fonctionné. Et aujourd'hui là, c'est juste un maillot qui n'a rien à voir avec ceux qu'il y avait avant pour pouvoir en vendre.
Ok, voilà, c'est simple, c'est efficace, bravo. Tu t'en foutais ou pas toi, Marie?
Non, je m'en foutais pas, c'est juste pour dire que je crois avoir une info, c'est que Simon faisait partie des gens qui ont œuvré dans l'ombre pour que l'hymne d'entrée des joueurs ne change pas non plus. Et tu sais, il y avait eu cette histoire on va le changer. Et donc ouais, et ben il était là, il était, enfin pas
c'est comme
Vandalena
à Marseille,
il a tout fait pour
qu'on
change pas. Bien sûr.
L'identité d'un club. On parlait de la Cazette et de Tolisso il y a quelques instants. Bah voilà, mais on
Pourquoi
a bien
on a
compris.
Tout changé sur l'hôtel de la modernité là, comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces idées?
L'hôtel de la vente.
Écoute le grand patron financier, Olivier Giraud. Il t'a donné la réponse. Allez, 9h55. On revient dans quelques instants pour vous parler de basket et de jeune prodige qui va donc quitter l'ASVEL. Il s'appelle Victor Wembanyama et il va aller au club de Boulogne-Levallois. Tony Parker a été très classe. Mais forcément, il n'est pas très content. Peut-on parler de trahison? Oui ou non? Les GG ne sont pas d'accord. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.